Il faut vraiment se figurer la scène. On est le 25 avril 1975, au Portugal.
Ouais, un an pile après la révolution des œillets.
C'est ça. L'aube se lève à peine sur Lisbonne et il y a déjà des files d'attente interminables. Des millions de personnes avec un œillet rouge à la boutonnière. Et la participation va atteindre un taux irréel de 91,7%.
C'est un chiffre absolument historique.
Complètement fou, oui. Donc, dans notre analyse d'aujourd'hui, je suis ravie d'explorer ce moment de bascule. On va essayer de comprendre comment le simple fait de glisser un bulletin dans une urne a pu devenir l'acte politique le plus radical de l'époque.
Et pour comprendre ça, il faut vraiment visualiser un pays qui est en pleine ébullition. On est au cœur de ce qu'on appelait le processus révolutionnaire en cours.
Oui, la fameuse période où tout bascule du jour au lendemain.
Exactement. Enfin, pour les citoyens, la société se métamorphose vraiment. Les banques sont nationalisées à la hâte, les ouvriers agricoles occupent les grands domaines au sud.
Ah oui, c'est une transformation totale du paysage économique.
Tout à fait. Et surtout, le pouvoir militaire s'est institutionnalisé après une tentative de putsch ratée en mars. L'armée contrôle plus seulement les casernes, en fait. Elle contrôle tout l'appareil d'État.
Et ce chaos déborde carrément des frontières parce que quand on regarde du côté de Washington, on voit un Henry Kissinger qui panique totalement.
Oui, il est terrifié. Il redoute de voir un pays de l'OTAN basculer dans le bloc soviétique. L'enjeu international est vraiment colossal.
Le peuple demande soudainement aux citoyens de voter blanc. C'est comme organiser un immense banquet et une fois à table dire aux gens qu'ils peuvent manger que les serviettes. Pourquoi refuser aux gens de choisir un parti politique?
Bah, c'est une excellente analogie. En fait, la mécanique derrière ça, elle est purement stratégique. Ces officiers cherchaient un plébiscite direct.
Un chèque en blanc, en quelque sorte.
C'est exactement le terme. Il voulait ce chèque en blanc pour gouverner sans s'encombrer des querelles parlementaires ou des partis traditionnels.
Mais attends, l'armée vient de les libérer de 4 décennies de dictature. Pourquoi le peuple leur fait pas simplement confiance en votant blanc?
Eh bien parce que la conscience politique de la population a mûri à une vitesse fulgurante. Les gens ont opposé un refus catégorique à cette tentative de confiscation du pouvoir.
Même dans les campagnes les plus reculées, non.
Oui, des pêcheurs de l'Algarve aux paysans de l'Alentejo. Même ceux qui ne savaient pas lire s'étaient fait expliquer les couleurs des bulletins. Pour eux, voter, c'était pas une formalité. C'était récupérer leur souveraineté.
Et cette volonté de reprise en main, elle va se cristalliser autour de deux figures, deux visions du monde totalement opposées.
D'un côté, on a Alvaro Cunhal. Il rentre de son exil à Moscou. C'est le leader du Parti communiste.
Et lui, il mise sur l'armée, les syndicats, c'est ça?
Tout à fait. Un État centralisé, des syndicats verrouillés et une alliance avec l'aile radicale de l'armée. Et de l'autre côté, on a Mario Soares, le leader du Parti socialiste.
Qui rentre de Paris par le fameux train de la liberté.
C'est ça. Et lui défend un modèle radicalement différent, un socialisme démocratique à l'européenne. Il est même soutenu financièrement par Willy Brandt en Allemagne.
Le jour de l'élection arrive et les résultats tombent. Soares rafle 37,9% des voix. Le centriste Sácar Nero crée la surprise avec 26,4% et le parti de Cunhal s'effondre à 12,5%.
Une vraie gifle électorale pour les communistes, en fait.
Sauf que là où je bloque vraiment, c'est la réaction de Cunhal. Il balaye ça d'un revers de main en parlant de démocratie bourgeoise. Comment on peut intellectuellement justifier de rejeter un scrutin avec 91% de participation?
Mais c'est la logique même de l'avant-gardisme révolutionnaire. Pour l'extrême gauche militaire et pour Cunhal, la légitimité vient pas de l'arithmétique des urnes.
Elle vient de la pureté idéologique alors?
Exactement, ils estiment que le peuple, manipulé par des forces réactionnaires, s'est tout simplement trompé. Et ce déni de la réalité électorale va déclencher une période de chaos absolu, ce qu'on appelle l'été chaud, le verano quente.
L'ambiance à l'époque, c'est presque une guerre civile. Comment ça a pu déraper aussi vite malgré un vote aussi clair comme Machfi?
Parce que les forces radicales ont cherché à contourner l'Assemblée nouvellement élue. Ils ont créé des assemblées populaires dans la rue, occupé des usines et accaparé les médias.
Pour vider le Parlement de sa substance.
Voilà. Et le Parti socialiste réplique en mobilisant des foules immenses. Le pouvoir est littéralement tiraillé dans la rue entre légitimité démocratique et légitimité révolutionnaire.
Jusqu'à l'affrontement final du 25 novembre 1975.
Oui, quand les factions modérées de l'armée font sortir les blindés dans Lisbonne pour neutraliser militairement l'extrême gauche.
Donc paradoxalement, c'est une intervention militaire de force qui vient sanctuariser le vote démocratique du peuple.
C'est toute l'ironie de l'histoire, oui. Cette intervention a sécurisé ce que les urnes avaient décidé de manière pacifique 7 mois plus tôt.
Ce qui nous laisse avec une réflexion fascinante. Quand un peuple s'exprime massivement, mais que certaines forces refusent le verdict des urnes, est-ce que l'élection marque vraiment la fin d'une révolution ou est-ce juste le tout premier jour de la véritable bataille pour le contrôle des institutions? C'est une question que l'histoire, malheureusement, continue de nous poser.